Bien, donc nous voilà pour notre dernière séance sur le thème du pardon. C'est un peu l'occasion de nouer la gerbe, mais c'est aussi peut-être l'occasion de régler quelques questions qui jusque-là étaient finalement un peu en suspens, notamment sur le rapport que le pardon entretient avec soit l'injustice, soit ce qui nous semble impardonnable. Nous avons eu l'occasion d'avoir deux séances à la fois sur le rapport entre le pardon et la justice et l'impardonnable, notamment avec Yankelevitch. Mais on sent qu'il y a, comme qui dirait, un résidu sur le fait qu'il y a quand même des choses qui ne semblent pas pardonnables dès lors que, par exemple, c'est un enfant qui est accidenté par un conducteur ivre, des crimes tels que ceux de la Shoah. Voilà, il y a des fois de la barbarie ou une forme d'inconscience qui nous semble ne pas pouvoir être assumée par le pardon. Cette séance a justement pour objectif de montrer qu'il n'y a guère que le pardon qui permette de gérer ces situations-là. Et si je devais résumer cette séance en une formule, ce serait de dire, au fond, l'Évangile nous fait comprendre que le pardon est une sorte d'hygiène quotidienne. C'est pour cela que c'est intitulé « Pardonner au quotidien ». Au fond, on peut peut-être découvrir que le cœur de la prédication du Christ, c'est justement le pardon. D'abord pour celui qui va pardonner. Et qu'en fait, le pardon n'a pas d'abord un effet pour celui qui est pardonné, mais pour celui qui pardonne. Et c'est le sens de ce texte et de cette séance. On va essentiellement travailler sur Matthieu 18, les versets 21 à 35, et puis on aura l'occasion de faire un petit passage par les deux versets de Luc 17, versets 3 et 4 que je vous ai mis en dessous. Mais l'essentiel, c'est Matthieu 18, qui peut-être est finalement le texte qui nous parle le mieux du pardon, alors que ce n'est pas forcément celui auquel on penserait le plus, et à la limite, c'est celui dans lequel le mot « pardon » n'apparaît pas dans nos traductions. Mais il apparaît dans le texte grec, et on le verra. Voilà, si quelqu'un pouvait lire une version française de ce chapitre 18, versets 21 à 35.
Alors moi, j'ai la version de Tremblant.
Oui, François, si vous voulez, oui, très bien.
Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il m'offense ?» Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. On l'amena pour commencer un homme qui lui devait 10 000 talents. Comme il ne pouvait payer, le maître ordonna de le vendre en paiement, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Ce serviteur, se jetant à ses pieds, se tenait prosterné et lui disait « Use de patience envers moi, je te paierai tout. » Le maître de ce serviteur, ému de pitié, le laissa aller et le tint quitte de sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et le saisissant à la gorge jusqu'à l'étrangler, il lui dit « Paie puisque tu dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et lui dit en suppliant « Use de patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne le voulut point et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, témoins de ce qui s'était passé, en ressentirent un profond chagrin et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Il faut continuer, je me rappelle.
Oui.
Alors, le maître ayant fait venir ce serviteur, lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et le maître irrité le livra au geôlier jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur.
Bien. Voilà, donc pour ce texte que je trouve assez exemplaire, qui apparemment finit assez mal, mais on va essayer de défendre ce texte. Je vous propose, alors comme c'est en fait une parabole qui démonte un peu le mécanisme du pardon ou du non-pardon, je propose qu'on le prenne cette fois un peu verset par verset, voir un peu comment l'action évolue. Et puis, je vais essayer aujourd'hui de vous laisser un peu plus la parole que d'habitude, bien que j'ai préparé plus que d'habitude. C'est là le paradoxe. Ce qu'il faut. Non, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on puisse échanger sur les réactions que l'on a vis-à-vis de ce texte, parce qu'en fait, je vous donne une clé de lecture, c'est que ce texte n'est pas tant un exposé théorique qu'un texte pour nous secouer un peu, pour un peu comme un effet miroir, pour que l'on puisse ressentir à l'intérieur quelque chose provoqué par la situation là. Voilà. C'est un texte pour nous faire réagir. Donc, c'est intéressant de pouvoir partager un peu nos réactions au fur et à mesure. Bon, dans un premier temps, il y a ce petit énoncé avec la question de Pierre. Sur le plan historique, on peut se dire que l'évangile de Matthieu, qui est proche du judéo-christianisme et donc proche de la communauté de Pierre aussi, même si c'est plutôt Jérusalem, alors que Pierre, c'est plutôt la Galilée, essaie d'encourager la communauté primitive. Vous voyez, c'est d'abord un texte qui s'adresse à la communauté primitive avant d'être un texte qui s'adresse à nous. Et la question qui est posée par Pierre, c'est la question qui est posée par le chef de la communauté primitive, enfin d'une des communautés primitives. Et au fond, c'est quelle est la relation que je dois entretenir avec les membres de la communauté, hein. Donc on pourrait faire une lecture historique ou socio-historique. Moi, je vous propose de faire plutôt une lecture, disons, existentielle, voir comment est-ce que ça nous cause aujourd'hui et comment ça peut informer notre propre réflexion sur le pardon. Alors, premier élément que je mets devant vous, c'est le fait que celui qui parle, c'est celui qui est offensé. C'est la victime qui parle. Ce n'est pas un point de vue extérieur, c'est le point de vue de l'intérieur de la part de celui qui a subi un tort. Donc on va souvent utiliser le terme offenseur, offensé et offense aujourd'hui. Là, Pierre se place dans la situation de l'offensé et pardonnerai-je à mon offenseur en quelque sorte. Et le terme est intéressant parce que c'est pardonner à mon frère. Mais ce n'est pas pardonner les péchés de mon frère ou les fautes de mon frère, c'est pardonner mon frère. C'est la personne qui est l'objet du pardon. Et on a eu l'occasion de peut-être à un moment donné d'avoir un peu de flottement entre le pardon et le pardon des péchés. Et bien peut-être que là, on a un éclaircissement, c'est qu'il s'agit, chez Matthieu en tout cas, de pardonner les personnes sans forcément excuser les actes. Oui. Peut-être que quand les choses sont trop énormes, ce que nous subissons est très énorme, on peut essayer de distinguer déjà les personnes des actes. Pour se dire, peut-être que je vais réussir à pardonner cette personne, ce qui ne signifie pas pour autant excuser l'acte. Ensuite, ce qui est intéressant dans ces premiers versets. Oui, entrez. Soyez la bienvenue. Je pense qu'il y a encore un petit peu de place par ici. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la question de la mesure. Pierre, qui est toujours très soucieux de l'administration de la communauté, pose la question du calcul, de la mesure. Et Jésus, lui, est déraisonnable, démesuré. Et à la question, devrais-je pardonner sept fois, ce qui semble déjà le bout du monde? Sept, c'est le nombre de la plénitude, c'est ce qui est divin, complet, c'est l'infini aussi. 70 fois, sept fois, c'est l'infini de l'infini. Certaines versions, vous le verrez du coup dans certaines traductions, ont 77. Voilà. Bon, les textes les meilleurs a priori, ce serait 70. 70 fois, 7 fois. Des fois, c'est 77 fois, 7 fois. Ne soyez pas inquiets outre mesure. Donc, on a ce que l'on avait déjà découvert avec Paul Ricoeur et Derrida, c'est que Jésus ne pose pas de limite au pardon. Et qui dit pas de limite, dit aussi pas de condition, en fait. Voilà. On est déjà dans le bain. C'est une sorte de préambule qui nous donne la philosophie de la suite. En règle générale, dans la culture ambiante, on admettait un maximum de 4 tentatives de réconciliation. C'est pour vous montrer que Jésus est déjà dans une forme Pierre est déjà dans une forme d'excès avec 7. En général, on admettait 4 tentatives de réconciliation. Et si l'on suit, par exemple, le Talmud, on peut y lire « L'offensé a le devoir d'accepter les excuses qu'on lui présente et de ne point s'en tenir à son ressentiment. Pardonne l'insulte qui t'est faite. » Et même après que l'offenseur lui a donné ce qu'il devait, il ne lui est pardonné que s'il demande à l'offensé. C'est-à-dire que il y a une sorte de condition. À la fois, l'offensé, celui qui a subi le tort, n'a pas à refuser les excuses. Mais d'un autre côté, il n'y a pardon qu'à la condition qu'il y ait une demande. Le pardon est conditionné par une demande. Il ne lui est pardonné que s'il demande à l'offensé. Autrement dit, si celui qui a commis le mal demande d'être pardonné. Et des fois, on a l'impression que c'est normal, qu'il faut qu'il y ait quand même d'abord une initiative de celui qui est le coupable. Eh bien, avec Jésus, ça n'apparaît pas. Après, on a l'impression peut-être que ça va ressurgir. On va essayer de voir ça. Donc, on a le 7 qui symbolise la perfection, l'infini. 70 fois, 7 fois, ça sera un pardon à l'infini du pardon.
La condition annule, en fait, la valeur du pardon. Si on met une condition, ça n'a plus de valeur.
Ça peut l'annuler si on estime que le pardon, c'est notamment ce qui permet de gérer ce qui semble impardonnable, en quelque sorte. Mais pour certains, le pardon est nécessairement conditionné. C'est-à-dire que dans leur compréhension de ce qu'est le pardon, il faut qu'il y ait eu cette initiative, cet élan de l'offenseur pour que le pardon soit valable. C'est un peu la position de Yankelevitch, c'est de dire « sinon c'est de la mascarade ». Ou alors ça serait de dire « c'est un pardon à bon marché en quelque sorte ». Ou alors un pardon qui serait comme de l'eau qui coule sous les plumes d'un canard. Si Yankelevitch refuse de pardonner le peuple allemand, c'est parce qu'il écrit que notamment, il n'a pas entendu une seule demande de pardon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de demande, mais il dit, nous ont-ils seulement demandé pardon ? Oui, c'était dans les phrases que je vous avais lues la fois dernière. Nous ont-ils seulement demandé pardon ? La position de Yankelevitch, je trouve, est très contestable, mais c'est pour montrer que c'est une des compréhensions du pardon qui court encore aujourd'hui. Et vous savez que dans beaucoup de procès, quand ce sont des parents qui viennent parce que leur enfant a été kidnappé, torturé, etc., ce qu'ils demandent, en général, c'est que justement, le coupable exprime des regrets, demande pardon, en tous les cas, qu'il soit dans une position où il fait quelque chose. Hein, il participe à ce mécanisme qui va pouvoir permettre le pardon. Avec le texte qui suit, bon, on va rapidement passer à la parabole. Est-ce que sur ces 3 versets qui concernent Pierre, vous aviez des choses à dire sur les 70 fois 7 fois, sur la comptabilité du pardon? Bon, oui, il y a... Oui.
Je veux dire, mais là, même dans le monde actuel, on demande toujours une comptabilité, parce que l'autre jour, il y a une conférence similaire, l'ironie du sort, Il y avait un magistrat, un avocat, et lui, il est procureur général, et son fils avocat. Mais il nous disait, ce que disait le mot, c'est une mascarade, parce que même s'il pardonne, mais ensuite c'est fait, mais il y a la sentence. Et alors, quand il y a des condamnations, des fois 10 ans, de prison ferme,
oui.
Alors même celui qui voulait être pardonné, on dit oui, verbalement, mais matériellement, il est enfermé.
Alors
c'est le premier pénitencier, c'est Burki qui m'expliquait ça une fois.
Ouais. Alors,
oui, mais la justice pense.
C'est deux choses différentes, mais pour comprendre aussi ce qu'il y a dans la compréhension de certaines personnes, certains considèrent qu'il ne peut pas y avoir de pardon sans justice, et qu'au fond, on ne peut pardonner que des choses qui sont condamnables. Vous voyez, c'est intéressant aussi. C'est de se dire qu'on ne peut pardonner que quelque chose qui relève d'une forme de culpabilité. Et la justice, elle est là pour dire que cet acte est coupable. Et donc, le pardon, effectivement, peut s'articuler sur un verdict. Non pas on avait bien vu que ce n'était pas sur la sanction que le pardon pouvait s'articuler, mais sur le rappel du droit.
Exactement.
Et donc, sur le rappel de la faute. Voilà. Et la faute, l'expression de la faute, fait partie du processus de pardon. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de mal subi, il n'y a pas lieu de pardonner. Donc, il faut entendre le mal subi pour que celui qui a reçu ce mal puisse exprimer quelque chose qui est de l'ordre du pardon.
Ça, ouais. Moi, je voudrais juste poser une question à propos du premier mot.
Oui.
Alors Pierre s'approcha de lui. Le alors
le toté
laisse à penser que c'est la suite du paragraphe du 15 à 20
oui.
qui précède.
Mm-hmm.
Et dans le 15 à 20 qui précède, donc on est dans une manifestement, on est dans un contexte où les disciples sont réunis autour de Jésus, où ils débattent de plusieurs questions.
Mm-hmm.
Et on pourrait croire que alors Pierre, quand il prend la parole, ça a un rapport avec ce qui précède.
Oui. Ce qui est le cas d'ailleurs.
Et puis, moi je n'ai pas tellement l'impression, parce que dans ce qui précède, si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. Mm-hmm. Si t'écoutes, tu as gagné. Si tu n'écoutes pas, prends deux témoins. Mmh. Si tu n'écoutes pas encore, prends l'Église comme témoin. Et puis s'il n'écoute pas l'Église, eh ben, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire que le contexte veut dire que bon, eh ben, tu ne lui pardonnes pas. Hein. Enfin, c'est un païen, tu le rejettes. Hein. Tu le mets de côté. C'est
Jésus a rejeté les païens et les publicains ?
Non, mais c'est dans le.
Mais oui, mais. Je sais bien, mais.
Alors,
c'est pas parce que c'est écrit qu'il sera comme un païen et un publicain que du coup il est voué aux gémonies. Jésus n'a pas cessé d'aller vers les païens et les publicains. Ce que je veux dire, c'est qu'on se fait une idée du païen et du publicain dans le Nouveau Testament qui est celle des pharisiens.
Non, mais je veux pas, c'est pas à propos du païen et du publicain, mais ouais. c'est l'esprit, enfin, c'est le sens, si tu veux. Mm. Bon, le païen et le publicain, tu le considères comme un païen et publicain. C'est pas un contexte de pardon.
Ben, je pense que justement si. Et c'est pour ça que le toté, le alors intervient. C'est que les disciples, du coup, comprennent, au regard de ce que Jésus a toujours fait vis-à-vis des païens, des publicains, c'est-à-dire de ne jamais se lasser. C'est pour ça que Pierre dit, mais alors ça veut dire qu'il ne faut pas que je me lasse, il faut que je fasse comme toi et de continuer à aller vers les gens de mauvaise réputation, vers les gens dont on imagine qu'ils n'ont plus sa place dans leur société. Oui, et en fait, c'est ce qu'il va expliquer, je crois. C'est-à-dire qu'effectivement, les païens et les publicains, s'ils n'ont pas bonne presse au regard de la société israélite de l'époque, sont ceux que Jésus fréquente, et inlassablement, et même contre les mises en garde des pharisiens. C'est comme Simon qui est scandalisé parce que Jésus se laisse faire par cette pécheresse qui rentre dans la maison. Et Jésus qui manifeste non seulement de la bienveillance à leur égard, mais une vraie patience. Et du coup, le alors, c'est Pierre qui réalise « Ah, mais ça veut dire qu'on n'en finit pas alors d'essayer de se réconcilier avec ce frère. »
Alors, tu viens de dire un mot qui me semble être l'axe de tout ça, presque plus que le mot « pardon », c'est le mot « patience
ouais. ». Exactement.
Bon, patience.
D'ailleurs, c'est le terme qui est utilisé dans la traduction pour autre chose, mais sois patient avec moi. Moi qui suis ton offenseur, fais preuve de patience avec moi. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. On va voir que le terme est magnifique. Le terme, c'est « et grand cœur ». La patience, en fait, c'est d'élargir son cœur. C'est beau, ça. Mais on va le voir après.
Mais
alors, juste... Oui, oui.
Par rapport à ce que vous avez dit, que finalement, le considérer comme païen et publicain, est-ce qu'il y a aussi l'idée selon laquelle... deux idées en même temps. Il y a un passage, un verset dans la Bible qui dit « autant qu'il t'en est possible, essaye d'être en paix avec ton voisin ». Est-ce que l'idée, finalement, qu'en tant que chrétien, on essaye le plus possible de tendre la main à une personne? Et si, après lui avoir parlé, après avoir pris des témoins, après être témoin l'église à Dieu, disons, est-ce qu'il n'y a pas cette idée que finalement, si tu as fait ton possible, ensuite remets-le à Dieu, remets-le à Jésus qui vient pour récupérer les paroles de Dieu?
Alors, je crois que justement, ce texte va nous dire qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est une dynamique permanente. Tant que le royaume n'est pas instauré, on continue. Et il faut imaginer le chrétien heureux. Remontons inlassablement cette pierre au sommet de la montagne. C'est-à-dire que je crois que l'évangile de Matthieu, en particulier après le sermon sur la montagne, pose l'éthique chrétienne de manière très radicale. C'est-à-dire que l'horizon du bon et du bien ne s'arrête jamais. Et tant qu'une brebis est sur le point d'être perdue, il convient d'aller la chercher. Ça commence un peu comme ça, d'ailleurs. C'est que il n'est pas question de perdre le plus petit. Et le plus petit, c'est le païen, le publicain. C'est la veuve et l'orphelin.
Ce que je veux dire, c'est que le fait de s'en remettre à Jésus, c'est pas dire qu'on abandonne la personne, mais dans le point de vue pratique, les gestes qu'on pouvait faire pour aller vers la personne, donc on est plus ce qu'on pouvait faire. Et là, finalement, si on revient à la patience, évidemment, on s'en va à la prière, parce que là, on peut juste attendre que la personne puisse en faire un pas vers soi.
Eh bien, en fait, je pense que chronologiquement parlant, c'est plutôt l'inverse. On l'a vu avec la question du pardon originaire, c'est qu'en fait, la question de s'en remettre à la puissance d'amour de Dieu, c'est même le préalable. C'est parce qu'en fait, c'est ça qui est en amont, c'est ça qui est au départ, qu'on ne va pas se lasser. Et au fond, ce que montre ce texte, c'est que le pardon est un pardon d'humain, et qu'en permanence, c'est l'homme qui pardonne, contrairement à d'autres religions où le pardon est toujours envoyé à Dieu. Dans le christianisme, le pardon est toujours l'affaire des hommes parce qu'il est rendu possible par Dieu dès le départ. Et on va voir que la question, c'est est-ce qu'on arrive à se pardonner à soi-même? C'est dans la mesure où on arrive à se pardonner à soi-même qu'on arrive à pardonner aux autres, en fait. C'est avec le problème du petit monsieur qui est au milieu de l'histoire. Et ça, effectivement... quelqu'un comme Emmanuel Lévinas le dit bien, on n'arrive jamais à se pardonner soi-même. Donc il faut que quelqu'un d'autre nous pardonne. Et là, Dieu est celui qui nous pardonne au départ. Mais il faut quand même quelqu'un qui nous en fasse prendre conscience, qui nous le révèle, en fait. Voilà. Ça éclaire un petit peu par rapport à votre question? C'est-à-dire que je résiste un peu à votre tentation de dire... la foi, c'est un peu la cause des désespérés. C'est quand ça ne marche plus, allez, jetons-nous dans la prière. Je pense que la prière, c'est au contraire le socle, ou la vie spirituelle, c'est le socle qui nous permet d'aller de l'avant.
Non, je suis d'accord avec vous, parce que de toute façon, même les trois premières tentatives d'aller vers la personne, pour moi, ce serait impossible s'il n'y avait pas déjà un conseil à la personne. J'avais un récit en tête d'une personne où ses étapes ont été faites, et la personne
Je partage assez ce que vous dites, parce que j'ai le sentiment, hein, dans le cadre de mes limites, on peut arriver au bout de ce qui est humainement possible. Hein, et dans ce cas-là, la seule solution, c'est de remettre la personne, le pardon, l'offense au Seigneur.
Mais là,
on peut l'interpréter de plusieurs façons, sans doute. Mais...
C'est-à-dire qu'il faut distinguer ce qui est le pardon de ce qui est la réconciliation. C'est-à-dire que là, on est dans la question du pardon, et c'est la raison pour laquelle je vous disais, le pardon qui est en particulier utile pour celui qui pardonne. La réconciliation étant le fait de pouvoir restaurer une relation. Et alors, il y a ceux qui ne veulent pas du pardon, d'accord ? D'ailleurs, il y en a un qui n'en veut pas, on va le voir. Mais le premier acte du pardon, c'est celui qui a reçu l'offense. Et c'est là-dessus que l'Évangile, en fait, nous ouvre les yeux. C'est que c'est la gestion du mal subi. C'est un peu pour ça que Nietzsche, d'ailleurs, dans la citation que faisait Olivier Abel le dimanche dernier, Nietzsche dit que, grosso modo, les paroisses, c'est les repères de perdants. Parce que ce sont des gens qui ont conscience d'un mal subi. Mais c'est un mal transfiguré aussi. Le pardon transfigure le mal. Et du coup, il y a une vraie résurrection intérieure. Et la personne qui est pardonnée, elle, est dans une autre logique. Qu'on va aussi voir à travers cette petite parabole.
Oui, mais le pardon n'est pas l'oubli. Excuse-moi l'expression.
Non, mais d'ailleurs, là, on...
Non, mais avec le poids des années, il faut bien se dire.
Non,
parce c'est que... Enfin, moi, je comprends comme ça, parce qu'en plus, j'ai oublié le mot, mais enfin, Jésus, pour son temps, il défendait quand même l'indéfendable, en plus. Mais il reste toujours... Enfin, je ne sais pas, moi...
De même qu'il y a une transfiguration du mal subi,
oui.
Il y a une transfiguration de la mémoire.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas un oubli, c'est une réécriture.
Ah, voilà. Ça, c'est important.
Ouais.
Alors, une question à propos de l'offense, puisque...
Oui.
Pardon. Est-ce que l'offense peut être considérée comme une dette ?
C'est exactement comme ça que c'est évoqué.
Voilà, enfin, je pose la question.
Oui, oui.
Là, ça peut être une image pour expliquer, mais est-ce que...
C'est comme si on avait pris quelque chose et il faut le rendre. Alors, évidemment, on le comprend bien quand quelqu'un dit « il a pris mon enfant ». Hein, quand il y a eu un meurtre, « il a pris mon enfant ». Mais ça peut être « il a pris une part de ma dignité ». « Il a pris une part de ma jeunesse ». Pardonner à un mari violent, c'est pardonner quelqu'un qui a volé notre vie de femme, par exemple. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être aussi de l'immatériel. Et du coup, ici, on prend le registre de la dette comme métaphore, mais en fait, c'est une métaphore qui est très parlante. Oui. Et tout va se jouer autour de la remise de la dette. Pardonner comme... Qu'est-ce que l'on fait de la dette ? Et on va voir que, justement, le pardon est autre chose que de rembourser. On prend le texte ?
On peut pardonner sans se réconcilier ?
Oui.
C'est pas obligatoire ?
Ben, l'invitation, c'est d'abord de pardonner, et puis ensuite d'essayer de réconcilier. Dans la réconciliation, il y a peut-être effectivement l'attitude que vous évoquiez.
C'est pas évident d'arriver à la réconciliation.
C'est pas automatique, en tout cas.
Non, c'est pas. Moi, je dirais que c'est pas forcément une nécessité.
Il arrive à un certain stade de maturité et de réflexion.
Oui. Il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas en... Je ne sais pas comment dire.
Mais... Ouais. Oui, vous avez encore...
Le témoignage de cet homme à qui on avait tué le fils, il a dit « j'ai pardonné à celui qui a tué mon fils ».
Si on refuse de t'écouter, oui. Bah dans ce cas-là, on prend rapidement Luc, le petit paragraphe de Luc que je vous ai mis sur la feuille. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « je me repens », tu lui pardonneras. Alors, on a l'impression que c'est conditionnel. S'il se repent, tu pardonnes. La repentance ici, c'est la métanoïa. Vous avez le verbe juste à côté, là, métano. Donc méta, c'est après. Et puis nous, c'est l'intelligence, en fait. Vous avez un fournisseur d'accès, c'est nous.fr. Le noumen, c'est ce qui permet d'éclairer les situations. Enfin, c'est un concept qui est devenu un concept philosophique. Nous, disons, c'est l'intelligence. Méta, noia, c'est au fond une intelligence qui va... au-delà. On pourrait dire au-delà du sensible, au-delà de ce qu'il y a à voir. La conversion, ici, c'est justement de pouvoir ne pas s'arrêter à la surface des choses. Et donc, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. c'est dans quelle mesure est-il capable de bénéficier du pardon ? Eh bien, effectivement, là, il y a des conditions. C'est-à-dire qu'on ne peut bénéficier du pardon, en tirer les bénéfices, je veux dire. On ne peut en tirer les bénéfices qu'à la condition d'y être ouvert dans une certaine mesure. C'est-à-dire de voir que ce que la personne nous propose va au-delà de la logique de la justice et de ce qu'on a appelé la logique de l'équivalence, un prêté pour un rendu. Autre chose que le remboursement de la dette, justement. C'est-à-dire que si on veut bénéficier de la puissance du pardon, alors il faut s'ouvrir à une nouvelle compréhension de la vie, qui est autre chose que le donnant-donnant. Autre chose que le œil pour œil, dent pour dent. Sinon, on est dans la situation de cette personne qui est le serviteur qui va se faire pardonner et qui va refuser de pardonner. Bon, est-ce que vous avez une idée de la valeur de 10 000 talents ?
Ah non, alors ça fait combien ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un talent, c'est 1 kilo d'or. Donc, c'est 10 000 kilos d'or. Alors, je sais pas, le kilo d'or doit être, je sais pas moi...
Un talent, c'est 6 000 deniers, et un denier, c'est 5 500 francs or.
Ouais.
C'est beau.
Mais disons, ouais, je sais pas, le kilo d'or, ça doit être 15 000 euros, quelque chose comme ça.
Surtout aujourd'hui.
En ce moment, l'or est...
33 000 le kilo d'or.
Oui.
Il y en a qui sont bien enseignés, je trouve. Bon, voilà, vous faites votre conversion. Ah bon, parce que l'or a trop augmenté. Voilà, on va voir un peu après, d'ailleurs. Mais disons que maintenant qu'il n'y a plus de correspondance entre le franc et l'or, ni entre le dollar et l'or, d'ailleurs.
55 millions de francs. Oh là
là. Alors, justement, la question, c'est comment on peut avoir autant de sous sur soi en Palestine ?
Oui, allez.
Bah, bien sûr qu'on ne les avait pas. Mais la parabole qui est là nous parle d'une situation où quelqu'un est dans l'incapacité de pouvoir rembourser. C'est comme ce trader qui, à la Société Générale, fait une opération qui tourne mal, il est dans l'incapacité de rembourser, même si la justice veut qu'il rembourse jusqu'au dernier euro. Bon. Donc, la parabole pose comme situation de départ une dette non remboursable. La personne n'est pas solvable, c'est impossible. Alors, que va-t-il se passer ? Donc, c'est un roi. Le roi ordonna que cette personne fût vendue avec sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait. Donc, vous voyez, il y a déjà l'idée qu'on n'est plus dans le raisonnable parce que des personnes, a priori, c'est incommensurable. Une personne, ça n'a pas de prix. Donc, dans une certaine mesure, alors bien sûr, on a toujours des logiques d'équivalence. Hein, globalement, une femme, trois chameaux, tout ça, on s'en sort, je veux dire. Mais bon. Et j'ai commencé en disant que les êtres humains n'avaient pas de prix et j'ai entendu la gente féminine râler. Alors bon, j'ai compris que... Bon. D'accord, voilà. Donc, on a une situation où la personne est tout à fait dans l'incapacité de pouvoir rembourser, restituer. Et cette personne va se jeter à terre, se prosterner devant le roi et lui dire « Seigneur, donc là on est au verset 26, aie patience, et donc c'est là qu'on a le terme « macrotumesson », c'est « agrandis ton cœur ». Oui. Avoir patience, c'est agrandir son cœur, c'est intéressant ça. On va voir pourquoi il faut agrandir son cœur. Et je te paierai tout. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose, cette histoire ? Une autre parabole, chez Luc. Alors, indépendamment de use de patience envers moi, indépendamment d'agrandir son cœur, mais c'est comme ça, cette personne qui se jette à terre, dit, bon, aie pitié. Je deviendrai l'esclave, je deviendrai ton esclave, etc. Et toute une stratégie comme ça pour essayer de se réconcilier aussi, justement.
Écris-moi sur une telle somme alors que c'est moins et je te demanderai moins. Et finalement, il se fait des amis. Et...
Ah, ça, c'est celui qui se fait des amis avec des procédures malhonnêtes. Non, c'est le fils cadet de la parabole du père qui a deux fils. Hein, qui perd tout, qui est non solvable, et qui se dit, oh là là, je suis même moins bien nourri que les cochons, etc. Ouais. Et du coup, il fait comme ça un petit stratagème, j'irai me prosterner au pied de mon père, et puis je lui dirai, je serai comme l'un de tes serviteurs, etc. Et puis son père, en fait, le relève, lui passe l'anneau, etc. Et en fait, il passe l'éponge, en quelque sorte. Il lui remet sa dette. Eh bien, on a ça ici, à peu de choses près. Et le terme qui explique l'attitude du roi, c'est au verset 27, « ému de compassion ». C'est le terme qui dit être pris aux entrailles. C'est un terme qui, en général, n'est appliqué qu'à Jésus. Ou au bon samaritain. Au fond, ce qui est intéressant ici, c'est que l'on voit qu'on n'est vraiment pas dans la logique de l'équivalence. Là, c'est la sensibilité qui entre en ligne de compte. Vous voyez, c'est l'émotion. C'est un peu ce que disait Gaston Bachelard dans sa préface d'un livre de Martine Buber, Le jeu et le tu. C'est comme lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu, mais que vous le reconnaissez. Il se passe quelque chose. Cette personne, elle vous fait vibrer, en fait. Ouais. Alors, certains parleront d'un coup de foudre, si c'est le cas. Mais... un autre soi-même. Comment se fait-il que ce que tu me dis se trouve un tel écho en moi ? C'est un peu ce que Jésus dit à sa mère aux noces de Cana. Quoi entre toi et moi ? Comment se fait-il ? Et ça, c'est Dolto qui dit. Comment se fait-il que ce que tu me dis trouve un tel écho en moi ? On est saisi aux entrailles. Et donc, c'est effectivement pas rationnel. C'est même pas très raisonnable. Le débiteur aurait dû être impitoyable. Bon, on se dit, mais c'est pas juste, une telle somme, et il passerait l'éponge comme ça. Il le laissa aller et lui remit la dette. Alors là, il va falloir quand même qu'on fasse un tout petit peu de grec. Parce que sinon, on va se tromper. Ce qui serait fâcheux. Alors, François avait tout à fait raison sur le fait qu'il était beaucoup question de dette et de remise de dette. Et si vous prenez un petit peu de temps chez vous, vous pourrez voir qu'il y a dans ce texte 7 fois un terme, qui est le terme apodidomi. Donc didomi, c'est donner. Et donc, apodidomi, en quelque sorte, c'est rendre. C'est quasiment le retour à l'envoyeur. Apo, c'est au loin. Donc, c'est, voilà. Apodidomi, 7 fois. Et 7 fois comme une action de l'homme vers un autre homme. Je te rembourserai ta dette, je te remettrai ta dette. Je te rembourse, en quelque sorte. Et... en fait, quand le serviteur, verset 26, dit « je te paierai tout », donc « je t'apodidomiserai tout », au verset suivant, le maître de ce serviteur le laissa aller. Et au fond, c'est intéressant parce que c'est encore « apo », mais avec « luo ». Et luo, ça veut dire délier. Donc, il le délie au loin. Hein, c'est comme s'il lui enlevait les menottes. Il le détachait. Comme s'il était pieds et mains liés. Et au fond, il le détache, il le rend libre. Il l'affranchit. Et le terme suivant...
parce qu'il aurait été un esclave.
Bah oui, en fait, il devient... oui, bon, c'est un doulos. Donc, c'est un serviteur plutôt esclave. Mais c'est qu'il était esclave de la dette. Et l'autre terme qui n'est pas la reprise de apodidomi, c'est afiemi. Pardonner, en fait. Enfin, c'est laisser aller. Afiemi. C'est un terme qu'on avait déjà vu, donc vous le retrouvez dans votre texte grec en face. C'est la forme aphéken. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sept fois apodidomie, et au fond, c'est l'espoir de toutes ces personnes, la remise de la dette. Mais la vraie réponse, elle est en termes de pardon. Ce n'est pas une remise de dette, c'est autre chose. Oui.
Cette fois, pardonnez, cette fois, 77 fois, je relis ça au pardon, d'accord. Mais l'énormité de la dette qui est en cause me fait penser plutôt à la grâce qu'au pardon. Pour moi, c'est la grâce.
Mais en fait, c'est exactement ça. Pourquoi est-il question d'un roi dans ce texte, alors qu'en fait, c'est un maître? Parce qu'en fait, il est maître quand il est dans un registre de l'équivalence, et il est roi quand il fait grâce, quand il use son droit de grâce. Et au fond, ce que veut dire ce texte biblique, a priori, mais je ne suis pas le seul à penser, l'Itabassé aussi est un peu sur ce registre-là, ce qui est quand même une forme de lettre de noblesse sur cette question du pardon. Elle dit, au fond, quand on exerce le pardon, ça nous place à la dignité du roi qui fait grâce. Oui, c'est exactement ça, bien sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que là, la somme est tellement colossale qu'en quelque sorte, le pardon va de soi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'autre solution pour s'en sortir. On voit bien que la personne ne va pas rembourser. Mais un peu plus loin, quand il va y avoir juste un petit denier à rembourser, une petite pièce d'argent, voilà, 100 journées de travail, là, on se dit... Ah, il pourrait rembourser quand même. Là, c'est techniquement possible, je vais... Ouais.
Alors, est-ce que ça veut dire que le pardon, c'est l'apanage de l'homme, avec l'homme il y a tout ça, et la grâce, c'est l'apanage de Dieu, ou est-ce que l'homme peut être amené à faire grâce aussi?
Ben là, clairement, l'homme va être amené à faire grâce.
C'est un roi, tu dis c'est un roi, donc attends, c'est quelqu'un qui est au-dessus de notre condition.
Non,
oui,
nullement,
mais oui.
Pas, oui. Pas après le 4 août.
Jusqu'à maintenant, dans l'enseignement, il n'y a que Dieu qui fait grâce. Est-ce que l'homme peut faire grâce?
Oui, c'est exactement le sens de la prédication de Jésus. L'homme, non seulement peut faire grâce, mais il doit faire grâce pour ne pas mourir, en fait. C'est-à-dire que ce passage biblique est en train de nous montrer qu'il y a un pardon originel. Ça, on l'a déjà vu, je reviendrai peut-être un peu. Mais si on veut continuer à vivre, je pense que c'est ça que je vous parlais d'hygiène quotidienne, il faut exercer le pardon. Parce que sinon, en fait, on va s'enfermer, on va se condamner, et on va le voir, on va se torturer. Au fond, le pardon, c'est pour éviter de subir la torture de la fin du texte. Et donc, le pardon... C'est bien sûr le pouvoir divin qui est donné à l'homme, mais c'est finalement la source d'une existence qui ne s'épuise pas, ou d'une source qui ne se tarit pas, en fait.
C'est-à-dire, ça veut dire, en pardonnant, on s'élève, il n'y a pas besoin d'être roi.
Non, c'est le fait de pardonner qui fait de nous un roi. Oui, absolument, oui, c'est ça. Oui, on a... Mais s'élever, vous voyez, c'est toujours un petit peu... C'est comme quand on parle de la vie éternelle et qu'on en parle un peu comme si on parlait de l'immortalité. En fait, c'est en termes de qualité. Le roi, c'est celui qui a une qualité, une dignité. Mais il ne faudrait pas envisager le roi comme celui qui est au-dessus et qui écrase le reste. Quand on dit que Dieu règne, c'est pas pour faire de nous un vassal, c'est pour dire que c'est lui qui exerce sa justice, et au fond c'est pour dire que le pardon, c'est juste. C'est juste et c'est ce qui justifie.
Moi, je vois plus le pardon comme quelque chose qui permet de rétablir la relation humaine entre les personnes.
Oui.
Et la grâce, c'est autre chose. La grâce, c'est de remettre la dette. C'est différent du pardon.
Parce que toi, le pardon, tu le vois comme réconciliation, peut-être.
Oui. Le roi, il ne pardonne pas, il remet une dette. Enfin, c'est aussi une façon de rétablir une relation humaine, mais je fais quand même une distinction entre les deux.
Ouais. Je pense que l'expression « agrandis ton cœur » et puis le fait d'être saisi aux entrailles est importante pour aller dans ton sens. Et en lien avec le fait que c'est déraisonnable ou pas rationnel ou ce qu'on veut. Au fond, ce texte nous dit qu'il y a un mystère. Vous savez, on n'aime pas trop les mystères en protestantisme, on considère que c'est souvent un peu un oreiller de paresse. Mais il y a quand même un mystère, c'est le fait qu'il y a une part inconnaissable chez l'autre et chez ce que l'autre fait. Et au fond, pourquoi faut-il agrandir son cœur ? Eh bien, c'est certainement en relation avec ce texte qu'on avait vu au début sur le serviteur souffrant dans Ésaïe 53, quand on disait il a mis sa sépulture avec ceux qui l'ont agressé. Hein. Vous savez, il partage leur sépulture, quelque chose comme ça. C'est une façon de dire que, et là ça relève de la grâce, c'est que la dynamique du pardon suppose qu'on agrandisse son cœur pour faire rentrer dedans et la personne qui nous a offensés et l'offense. Au fond, ce qui est demandé ici, c'est d'abriter l'offenseur et l'offense. Alors vous allez me dire, c'est quasiment pervers cette histoire. Mais en fait, non. L'offenseur supplie en faisant appel à cette capacité, vous avez raison, absolument divine, il n'y a que cette capacité divine, qui est de pouvoir se laisser envahir par la compassion. C'est-à-dire que naturellement, on est dans une logique du donnant-donnant, de la vengeance, de l'équivalence. L'idée de pouvoir accueillir en son sein l'offenseur et son offense, effectivement, il n'y a que Dieu pour pouvoir nous le rendre possible. Et ça, je pense que c'est ce qui relève de la grâce.
Je voudrais savoir, une personne athée n'arrive pas à avoir cette compassion qui la conduit au pardon, si elle ne croit pas en Dieu. Les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ont un grand cœur quand même, bien sûr.
Oui.
Je me demande, on pose la question.
Mais une chose... Oui, non, mais ce n'est pas parce qu'on se déclare athée qu'on l'est.
Non,
je veux dire, c'est pas parce qu'on se déclare athée ou qu'on refuse l'hypothèse Dieu que Dieu ne travaille pas pour cette personne-là aussi. Non, c'est vrai. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est la question de l'athéisme, c'est une question en soi. Est-ce qu'il ne serait pas athée des mêmes dieux que vous ? C'est-à-dire que si l'athéisme, effectivement, c'est d'en finir avec les images médiévales de la divinité, je pense que vous et lui êtes d'accord.
Je connais des personnes qui ne croient en rien, qui vraiment sont athées.
D'accord.
Ils pardonnent quand même. Aussi.
Comment ?
Ils sont capables de pardonner quand même.
C'est ce que je dis. Alors comment vous comprenez ? Il y en a qui sont capables de pardonner.
Bah, voyons,
alors c'est pas Dieu qui les aime. Là.
On voit qu'il y a quand même plusieurs, j'allais dire plusieurs types, mais peut-être même plusieurs qualités de pardon, à vrai dire. Alors, quel est le pardon dont on parle dans ce cas-là ? Voyez, là, la spécificité qui est en train de mettre en place les textes bibliques, c'est justement un pardon qui s'exerce de manière inconditionnelle et qui, au fond, va même s'intéresser essentiellement à ce qui, à première vue, est impardonnable. Alors, moi, je ne connais pas la personne dont vous me parlez, donc je ne peux pas présumer ou présager de comment elle se situerait dans telle ou telle situation qui serait peut-être une situation un peu extrême, un peu radicale. Et il est très probable qu'effectivement elle puisse pardonner dans des situations où le Christ lui-même nous demande de faire valoir ce pardon-là. Mais de même qu'on peut dire que les chrétiens n'ont pas le monopole de l'éthique ou le monopole de l'amour ou le monopole du cœur, il est en tous les cas manifeste que les chrétiens, eux, ne peuvent pas faire autrement, en quelque sorte, que de vivre selon cette dynamique-là. C'est-à-dire que si on ne pardonnait pas, on ne serait plus chrétien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que les chrétiens qui soient capables de pardonner. C'est-à-dire que... Non, mais c'est comme quand le jury de doctorat d'Albert Schweitzer lui avait demandé... pour son oral, de montrer en quoi le christianisme était supérieur aux autres religions. Il a fait comme Gaspard de Coligny, le temps de la réflexion, il a mis sa main sur le cœur, et puis il a dit, Bah non, le christianisme n'est pas supérieur aux autres religions. Voilà, c'était pour vous taquiner un peu. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui fait la spécificité des évangiles sur la question du pardon, c'est que ça pose quand même, j'insiste un peu aujourd'hui, hein, c'est que ça pose quand même le projecteur sur le lieu que l'on regarde le moins souvent, c'est-à-dire celui qui a subi le tort. Et une fois de plus, je me répète, le pardon est d'abord profitable à celui qui a subi le tort. Alors que souvent, tout se focalise autour de l'agresseur. Et vous voyez, on se dit toujours, mais on ne peut pas le pardonner. Il faut d'abord qu'il se repente, il faut qu'il fasse acte de contrition. Bref, tout le pardon semble tourner autour de l'offenseur, alors que les évangiles mettent le projecteur dans l'autre sens, le pardon du point de vue de l'offensé.
Ouais. Encore une observation.
Oui.
Je ressens ces paraboles, le sens de ces paraboles, comme quelqu'un qui renonce à exercer un droit. Le créancier renonce à exercer son droit. Bon. Mais ça n'entraîne pas pour moi qu'il se jette dans les bras de l'autre et qu'il se mette à aimer l'autre.
Bah d'ailleurs, ça ne se passe pas, là.
Alors ça... Bah oui, bah justement, c'est pour moi comme une limite au pardon. Tout à l'heure, on parlait de pardon et grâce, et on essaie de, voilà, on fait une comparaison entre les deux. Dans le pardon, je renonce à exercer mon droit de créancier. Ça a des conséquences manifestes pour mon débiteur. Hein. C'est une délivrance pour mon débiteur, mais ça ne veut pas dire que je l'aime, mon débiteur. Alors que dans la grâce, bon, ça va au-delà du pardon. Ça implique un acte d'amour.
Enfin là, il est quand
donc,
même
pour moi, le pardon, c'est, dans ces paraboles, il y a quand même une limite.
Oui. Ouais. Mais il est quand même pas dans une logique froide. Hein. Il est quand même ses entrailles, cet homme-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sensibilité qui est un moteur pour cet abandon de créance. C'est pas simplement.
Ça peut être une question d'éthique aussi. Hein,
oui, ou ça peut être un calcul froid. C'est comme au Monopoly. Hein. Des fois, il vaut mieux éviter que l'autre fasse banqueroute. Comme ça, on le garde sous tutelle. On est bien d'accord. Mais là, en fait. Oui, je m'y entends. Ouais. J'ai des enfants, moi aussi. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que on a un double scénario dans ce texte. Et donc, effectivement, ce que tu dis est supporté par le fait que dans le deuxième scénario, la logique du pardon ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce texte ne fonctionne pas comme un texte normatif, mais comme un texte descriptif. Autrement dit, ce n'est pas un texte qui dit ce qu'il faut faire, c'est un texte qui raconte ce qui se passe quand on agit de telle ou telle manière. C'est un texte qui révèle et pas un texte qui nous contraint à. Parce qu'on ne dit pas ce qu'il faut faire. On nous dit voilà les conséquences de cette attitude ou de cette attitude. C'est fait pour démonter le mécanisme du pardon ou du refus du pardon d'ailleurs.
Oui, mais là, j'ajoute ce que François n'a pas dit.
Oui.
L'ironie du sort ce matin, tu parles de la grâce. Ils ont interviewé quelqu'un qui a été gracié la dernière par M. Sarkozy, le président de la République, et tu sais très bien que, enfin, le président de la République ou la reine d'Angleterre gracie. Et il a sorti ce matin, il avait une peine très longue, mais il a dit, je remercie M. Sarkozy, ben, tout est grâce avec lui. Et un qui l'avait dit avant lui, c'était Bernanos.
Alors,
oui.
Tout est grâce avec M. Sarkozy. Alors nous sommes.
Oui, ah, bah non, mais il l'a dit ce matin. Non.
Ça, je savais que ça lui ferait plaisir.
À qui? Oui. Oui. Non, mais alors. Mais un chef d'État ou sur une reine, tout est grâce, non? Dans ces conditions.
Non, mais.
Oui.
On avait vu ça avec. Avec l'épisode d'Henri IV qui fait une amnistie générale.
Exactement, oui, cherchez le mot amnistie.
Oui. Le problème, c'est qu'on avait vu aussi que le pardon n'est pas quelque chose qui se délègue. C'est-à-dire que c'est celui qui a subi le tort qui peut pardonner, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est pas un chef d'État qui pardonne au nom de quelqu'un d'autre. Et alors là, la grâce, oui, la grâce, c'est quand même autre chose que la grâce dont parlait François.
Voilà.
Ah bon.
Bien sûr que ça s'inspire et que c'est pas sans point commun. Mais la grâce dont parle François est quand même autre chose. Justement, c'est autre chose que le fait de renoncer à son droit d'exercer une punition sur quelqu'un ou de maintenir quelqu'un en captivité. C'est-à-dire que, vous voyez, la grâce, c'est quelque chose qui n'est pas passif. Là, c'est une grâce passive, en fait. C'est simplement laisser. Non, la grâce divine, c'est quelque chose qui prend soin. C'est bienveillant, c'est actif. C'est la différence entre la morale et l'éthique, en quelque sorte. La morale est passive. On s'abstient d'empiéter sur le terrain de l'autre. On s'abstient de faire entrave à sa liberté, à sa capacité d'initiative, à sa dignité, etc. L'éthique, c'est constructif. L'éthique, c'est que vais-je faire pour être l'artisan du bonheur de l'autre ? Et donc, la grâce divine, elle est dynamique. Voilà. Là où la grâce présidentielle est plutôt en retrait, finalement. C'est comme si on laissait tomber quelque chose. Là où Dieu relève, au contraire. Je force le trait. Mais non, mais c'est pas sans point commun, mais c'est pas de même nature, pour le coup.
Pardon ?
Je pense que c'est un accessoire juridique.
C'est un accessoire politique aussi ?
Ah bon ?
J'avais entendu le témoignage de cet homme à qui on avait écrasé l'enfant, qui disait « Je pardonne à celui qui a tué mon enfant, parce que si je ne lui pardonne pas, je n'avance pas, je suis bloqué,
Et ben voilà. Voilà. On peut s'arrêter là, tout est dit, c'est bon. C'est exactement ça.
Donc, je lui pardonne, mais il n'empêche qu'il est quand même passible de la loi.
Ça n'empêche pas qu'on subisse la sanction qui est prévue pour ça. Quitte à ce qu'il y ait d'ailleurs une remise de peine ou quelque chose, mais c'est ce qu'on fait souvent pour les euthanasies, par exemple. On est condamné, et puis en fait, on n'exécute pas la peine. Mais dans la situation, effectivement, des parents, la question se pose, est-ce que les parents peuvent pardonner quand leur enfant est mort ? Est-ce que c'est légitime ? Bah oui, ils peuvent. On peut pas pardonner à la place des autres. Mais en fond, ils ne pardonnent pas pour la mort de leur enfant, ce qu'ils peuvent pardonner pour le tort qu'eux-mêmes subissent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas indemnes de cette situation-là. Et donc, le pardon qu'ils peuvent exercer est légitime, cohérent et nécessaire, comme vous le dites. Quant à la question de la Shoah, est-ce que les enfants des victimes des camps de la mort peuvent pardonner ? Eh bien oui, ils peuvent, parce qu'ils n'ont plus de parents. Je veux dire, ils ont vécu le deuil aussi. Ils ne pardonnent pas pour ce que leurs parents ont subi, mais ils peuvent pardonner pour ce qu'eux subissent de ce fait-là. Et une fois de plus, ils pardonnent aux bourreaux et pas aux enfants des bourreaux. Parce que les enfants des bourreaux ne sont pas coupables des crimes de leurs parents. Les parents ont pu manger des raisins verts, ce n'est pas pour autant que les enfants doivent avoir les dents agacées, dit Ézéchiel.
Moi, je crois que c'est important, parce que ça éclaire bien
ce que tu
viens de dire, que quand on refuse de pardonner, quand on ne peut pas pardonner, on est bloqué.
Ouais.
Voilà. Et la signification, le sens du pardon, c'est que ça permet ce déblocage, ça permet d'avancer.
En fait, pardonner, c'est laisser aller. Et Lita Bassé, c'est laisser aller le mal subi. C'est laisser aller la culpabilité. Ça, c'est le langage psychanalytique.
Même si on n'a pas reçu, même si on ne vous demande pas pardon,
je crois, oui. Ça, c'est, à vrai dire, chacun décide dans son âme et conscience. Je pense. Mon avis, Yankelevitch est resté coincé dans sa tourmente. À mon avis, Yankelevitch s'est torturé. Là où d'autres ont quand même mieux vécu les choses. On va le voir après, parce qu'en fait, c'est cette thématique-là avec le fait d'être livré au bourreau. Mais du coup, on va prendre le deuxième scénario qui est moins bien. Oui.
Est-ce que le temps n'induit pas la souffrance ? Alors donc.
Je ne t'ai pas compris par rapport au temps.
Le temps, à la longue, la souffrance de celui qui a été offensé, même s'il est pas, il se sent pas pardonné. le temps atténue.
Oui, estompe.
Estompe la passion du départ.
C'est un choix. Certains disent qu'il faut laisser le temps au temps. Moi, pour ma part, je pense que le temps n'existant pas, si on lui laisse le soin de s'occuper de nous, ça va mal se passer.
Il y en a d'autres qui ruminent pendant tout ce temps.
En fait, c'est ça.
Et qui font monter le...
C'est ça. C'est qu'en fait...
l'oubli, de toute façon, est impossible.
Ouais, mais... ah, oui. On a vu que par rapport à l'oubli, en fait, la position divine oscillait entre deux pôles extrêmes. Et entre l'oubli et la mémoire totale. Et au fond, le texte biblique, on l'avait vu, c'était « je ne me souviendrai pas ». Ça ne veut pas dire qu'il oubliera, ça veut dire qu'il ne sera pas dans cette répétition inlassable de ce qui s'est passé autrefois. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un sens giratoire, c'est-à-dire qu'on évolue. Donc on n'oublie pas. D'ailleurs, comment oublier ? À part prendre des médicaments, ce n'est pas possible. On peut faire une lobotomie, mais bon. Mais on n'est pas là pour ramener en permanence à cet événement du passé. Sinon, on est malade de sa mémoire et on reste enfermé dans son passé.
Mais on peut se rappeler et pardonner. Mais
oui,
pas
oui. Pour moi, ça me paraît... Mais quand je disais il y a une transfiguration du mal, il y a donc une transfiguration de la mémoire, ça veut dire que il y a une forme de relativisation, non pas en termes d'atténuation, mais on relie cet événement à d'autres événements. Et donc, ça rééquilibre, en fait. Ah non, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, ne pas trop laisser le temps faire son œuvre. Et qu'il faut plutôt trouver des étapes qui nous permettent d'avancer. Parce que souvent, quand on prend des techniques par rapport au pardon, vous prenez des livres, tout ça, comment faire pour pardonner, etc. En général, souvent, on dit il faut du temps, il faut laisser le temps, etc. Le temps n'est pas très bon conseiller, hein.
Pour le pardon, je crois.
Ah non, parce que
mais même pour le reste.
Il y a le temps de la réflexion aussi. Excuse-moi l'expression.
Non, mais dans ce cas-là, c'est qui a de la réflexion ?
Bah oui, pour un pardon avant de décider, tu es obligé, ce que disait. Non, oui, mais c'est pas. La grâce, je veux dire, on
c'est
de suite, on
c'est pas le temps comme un être qui ferait quelque chose à notre place.
Oui, d'accord, voilà.
Ou la vive. Ou la vive.
Et la colère.
Mais.
Ça dépend quelle offense.
Mais la colère peut faire place au ressenti. Et le ressenti va créer une amertume qui va vous ronger comme c'est pas permis. Mais la colère, en fait, elle est plutôt positive. D'ailleurs, l'homme est en colère. Du coup, on avance un peu sur le deuxième scénario. Je vous le relis parce que ça fait longtemps qu'il est parti. Après qu'il fut sorti, ce serviteur, donc celui qui a été gracié en quelque sorte, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Donc c'est intéressant, si vous regardez le grec, c'est syndoulos. Donc c'est, ça veut dire serviteur ou esclave avec. Voilà. C'est-à-dire que c'est, en fait, c'est un compagnon de servitude.
Ouais.
Ouais, c'est pas la misère, hein, c'est... C'est serviteur, mais c'est pas l'esclave non plus, enchaîné, etc. Mais
domestique, alors.
Ouais, comme on dit dans le sud, collègue. Ouais. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui partage la même condition que lui, en tout cas, qui lui devait 100 deniers. Donc, ça nous fait pas beaucoup. Hein, ça nous fait du 10 euros, un peu plus, quoi. Tant que ça.
Ah bon ?
Ça fait 100 fois moins.
Ouais. Ah oui, oui, ça, oui. Toc-toc, il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Donc c'est toujours apodidomie, hein, c'est rembourse. Et alors, je vous avais dit qu'il y a 7 fois apodidomie, il y a 6 fois la dette, c'est ophéleis. Alors soit c'est sous forme de verbe, soit, là c'est le verbe, soit c'est sous forme de nom ophéle, par exemple, vous l'avez au verset 32 à la fin de la ligne. Donc, hop, après qu'il fut sorti, on s'est vu, son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai ». C'est exactement le même topo. Sauf qu'il ne dit pas « Je te paierai tout ». Il dit « Je te paierai ». Enfin bon, d'un côté, c'est que 100 deniers. Et puis, il vient de dire « Paie ce que tu me dois ». Il dit « Je te paierai ». Donc, on a l'impression que c'est bon, ça va. Mais l'autre ne le voulut pas. Donc, il est dans l'absence de téléos, il est dans l'absence de vouloir, de volonté, d'objectif. C'est pas son objectif, en fait. En fait, finalement, il veut pas. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Il ne veut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Bah, je sais pas, il fait travaux d'intérêt généraux. Donc, ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, donc c'est les autres Sundouloy, hein, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé, tout ce qui était advenu. Ouais, c'est un peu la délation, mais bon. D'un autre côté, c'est quand même assez injuste. Enfin, c'est pour pas dire autrement, quoi. Vous voyez, quand je vous dis, le texte est là pour nous faire réagir. Enfin, comment vous auriez réagi, vous, tiens, après tout? Vous seriez dénoncé ou pas?
Dénoncé,
oh. Bah, c'est-à-dire en disant, voilà cet homme que tu as pardonné, lui, il n'a pas pardonné. Il a envoyé quelqu'un en prison. Mais d'un autre côté,
la dénonciation, c'est toujours pour réclamer des choses.
Hein. Oui, exactement.
Vous voyez ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, l'homme, le créancier, qui envoie l'autre en prison, il est dans son droit, en fait. Et on trouve que c'est injuste. Oui, c'est intéressant, ça, quand même.
Non, mais parce que l'autre,
ouais.
Par rapport à ce qui s'est passé antérieurement, c'est ça.
Ben oui, mais d'un autre côté, ce qui s'est passé antérieurement, c'est hors de la loi. C'est-à-dire l'abandon de dette ou de créance, c'est illégal. Enfin, c'est illégal au sens où c'est pas, on ne légifère pas dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant que lecteurs, on se dit, voilà ce qu'il faut faire dans cette deuxième situation. Ce n'est pas fait, donc c'est injuste. Alors qu'en fait, sur le plan de la justice, l'homme a fait ce qu'il était en droit de faire. Et voyez comme quoi le texte biblique arrive à nous construire une conscience qui n'est pas simplement une obéissance à la loi. Il y a là le texte qui construit une conscience qui est largement supérieure à ce que propose la loi. C'est pour faire un petit pont avec la théologie du Nouveau Testament et notamment la théologie paulinienne. La théologie paulinienne, elle est là, à nous dire, si vous vous contentez de respecter scrupuleusement la loi, alors en fait, vous commettez le mal, à peu de choses près, je force le trait. Mais on sent bien que ce n'est pas ce qu'il faut faire, alors que ce qu'il fait est tout à fait légal. On attend quelque chose de supérieur à la loi. Et ça, les chrétiens ne doivent pas transiger là-dessus. Je ne dis pas que les athées sont loin du compte, mais un chrétien ne devrait pas transiger là-dessus. Et c'est exactement ce qui se passe, par exemple, pour faire un peu le point avec le bicentenaire, à l'oratoire. C'est-à-dire que les lois d'exception sont refusées à l'oratoire. Bah, les lois d'exception pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. C'est toutes ces lois rétroactives qui vont notamment concerner les Israélites. Et je vous l'avais dit ça dans la prédication de Pâques, il y a le récit d'une femme, d'une paroissienne qui sort de l'oratoire début juillet 41. Ou enfin bon, peu importe, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle sort de la... Non, bah non, c'était après 43. Elle sort de l'oratoire, elle croise une famille avec une étoile jaune, et elle leur dit, je sors de l'oratoire, et je voulais juste vous dire que, bah voilà, je suis ému par votre situation, le pasteur nous a dit que ce qui vous arrivait, etc. Et donc, vous voyez, il y a le fait d'être saisi aux entrailles, alors que la loi dit, c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Eh ben non, la loi, là, est considérée comme inique. Mais on est bien d'accord.
J'aimerais bien qu'on revienne sur le sens de cette dénonciation.
Oui.
Est-ce que c'est vraiment la traduction qui convient? Parce que ça nous renvoie au verset 14, au verset 15. Hein. Si un frère a péché, va le trouver. Et puis, si tu n'écoutes pas, alors va raconter ça, prends deux témoins. Donc, il faut bien raconter l'affaire. Puis, si ça ne marche toujours pas, etc. Il me semble que entre dénoncer et raconter.
Mais c'est raconté. Mais ils n'ont pas. Oui, mais.
Il y a une nuance et que.
Bien sûr.
Je me demande si, dans la mentalité des Hébreux, enfin, du temps du Christ, ce n'était pas admis ça faisait pas partie du processus de bah, d'aller raconter, d'aller dire bah je suis pas d'accord, voilà ce qu'il a fait, raconter sans que ça soit ça atteigne la dénonciation telle qu'on la
ah oui. C'est-à-dire que à cette époque quand même on est sous domination romaine hein.
Oui.
On est sous domination romaine. Donc ça veut dire qu'un Israélite qui va raconter ce qu'un autre Israélite a fait à quelqu'un, prenons le cas des Zélotes, ah bien, il y a ce zélateur de la foi, il a commis telle exaction, etc. Enfin, non, il n'a pas commis telle exaction, il a tué telle personne, voilà. Voilà.
Je veux dire par là qu'il y a quelque chose qui est dans les mœurs des populations, plus ou moins. Nous, ce n'est pas dans les mœurs tellement dans le mœurs de Français d'accepter la dénonciation.
Enfin, non, c'est vrai, il n'y a jamais eu de corbeau en France. La police de Vichy n'a jamais été renseignée.
Je veux prendre une comparaison avec deux pays,
oui.
Deux pays où la dénonciation fait partie de ça. Les Suisses,
les États-Unis.
Et en Afrique du Sud. Mm-hmm. Alors peut-être qu'on a fait aux États-Unis. Mais il y a des différences entre les
oui, oui. Ben, c'est vrai qu'après, il peut y avoir des traditions qui sont plus ou moins ancrées.
Je suis d'accord avec François, finalement, en France...
C'est mal vu de dénoncer, quand même.
Oui, la libération, les règlements de compte.
Non, mais bien sûr.
Là,
c'est quand même les copains de celui qui a été maltraité.
Oui.
Mais c'est aussi les copains de celui qui a maltraité.
Oui.
Ils sont tous copains, en fait.
Ben non, c'est les
douloïs. Ben oui, ben lui-même est un doulos. Ils sont tous sundoulos, mais oui. Parce qu'il rencontre un de ses sundoulos, enfin un de ses sundouloïs. Donc il est sundoulos avec lui.
Ah oui.
Et c'est ça qui est d'autant plus inique.
Ah oui, alors.
Ben, ceci dit, d'autant plus inique, non. Oui, c'est là où on a une conscience quand même. C'est comme si c'était plus normal d'être injuste avec un étranger qu'avec un frère. Bon. Ce texte est intéressant parce qu'il nous dit on pourrait imaginer que le pardon entraîne le pardon inévitablement. Il a été pardonné, c'est logique qu'il pardonne. Ah ben non, méfiez-vous. Vous risquez d'avoir des illusions si, en ayant pardonné, vous vous dites cette personne va devenir saint, pur, bonne, exemplaire. C'est pour vous mettre en garde, mais c'est aussi pour vous soulager du fait que vous pouvez pardonner quelqu'un. Cette personne ne va peut-être pas être transformée de fond en comble. Ça ne remet pas en cause ce que vous avez fait. Ça ne remet pas en cause le pardon que vous avez exercé. Ça ne retire rien à ce pardon-là. C'est son affaire. Voilà. Ouais. Mais et du coup, on voit aussi que ce n'est pas la repentance, en fait, qui enclenche le pardon. C'est pour cela que le pardon est inconditionnel, de mon point de vue. Parce que dans le deuxième scénario, il y a eu repentance. Il y a eu cette demande de grâce, en quelque sorte. Oui, je reconnais que j'ai une dette envers toi, je vais tout faire pour la rembourser.
C'est pas de la repentance, ça.
Ah bon ?
Pour moi, non.
C'est pas de la repentance.
Le serviteur qui dit, non, écoute, sois patient, etc. Ouais. S'il ne se repent pas.
Ben, il reconnaît quand même qu'il a une dette.
Et il reconnaît qu'il a une dette.
Ben, c'est ça, la repentance, quand même. C'est quoi, alors ?
La démarche.
Non, la repentance, c'est carrément le changement de conduite. Il travaille tout de suite.
C'est exactement ça. Il dit que, un, il lui doit quelque chose, que, deux, il va...
Quelque chose, mais je ne reconnais pas. Ça ne veut pas dire que...
Je vais te régler.
Je vais te régler.
Ouais.
Mais,
alors, restons calmes. On est dans le cadre d'une parabole. C'est une métaphore sur un registre économique. Quand on a une dette envers quelqu'un, on n'est pas forcément en faute. Quand on a contracté un emprunt auprès de sa banque, on est certes débiteur, mais ce n'est pas une faute. Hein
mais la banque,
elle ne fait
pas de
race. Non,
pas... Ça dépend, mais... Donc...
C'est un problème qui dit, si tu prêtes de l'argent à un ami, tu perds un ami.
Ah oui.
Ah oui.
Mais si tu lui donnes l'argent...
Il vaut mieux lui donner. Il faut lui donner la moitié.
Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi le serviteur n'a pas fait comme on lui avait fait ?
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait comme on lui avait fait ? Ça, c'est vrai.
C'est ça le sens.
Oui, en fait, voilà, c'est ça le
truc. C'est...
Moi, Moi, j'ai cru que c'est parce qu'il voulait commencer à rembourser avec l'argent pour lui donner, mais pas du tout.
Il y a un rapport d'égalité, ils sont de la même.
Oui.
Et puis.
On est toujours plus dur avec les siens, ça voulait dire?
Moi, ça va dans le sens de ce que je disais.
Et puis, la somme n'est pas importante. Enfin,
il est solvable, c'est pas
encore. Ouais. Donc, on a un espoir de retour sur investissement ou de récupérer sa mise en tout cas.
Il est comme les Grecs en ce moment.
C'est ça.
Il a demandé un report d'échéance.
Oui, exactement.
Mais vous voyez.
Comme les Grecs.
Depuis tout à l'heure, je pense aux Grecs, moi.
Moi aussi.
Mais vous voyez, en quelque sorte, cette éthique à double vitesse. C'est-à-dire, cette idée selon laquelle la dette est tellement énorme que nécessairement, on passe l'éponge, alors que lui, il a une dette beaucoup plus petite. Et on va lui faire cracher au bassinet, quoi. Ben, c'est quand même assez étonnant. Et ça, c'est quand même un sentiment d'injustice assez fort. C'est la fameuse revendication, mais en fait, on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une éthique à double vitesse. C'est-à-dire que ceux qui s'endettent, mais de façon colossale, et ben, on va leur passer l'éponge, toujours les mêmes. Et nous, on a des petites misères, etc. Et on ne nous passe rien. Les impôts sont intraitables, etc. Vous voyez, il y a souvent un sentiment d'injustice parce qu'il y a une sorte de traitement inéquitable. Oui.
Je crois que c'est ce que Jacques voulait dire. C'est simplement, dans le premier cas, la personne, elle a un rôle, par rapport à la société,
oui.
elle est supérieure à la personne auquel elle pardonne. Et le fait de pardonner à cette personne, ça l'assoit dans sa position de supériorité par rapport à lui. Donc, à partir du moment où on est tous les deux au même niveau, il n'y a plus cette possibilité d'asseoir son autorité sur l'autre.
Ouais.
Donc, finalement, on
ne
lui pardonne pas parce que ça
ne
rapporte rien.
Ouais.
Et au contraire, ça marquerait qu'il a une meilleure gestion parce que lui, il exige qu'on le rembourse.
Ouais. Moi, je pense qu'il y a, y a un autre élément dans le texte qui nous permet de comprendre cela. C'est le verset 32. Le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» C'est sur le méchant serviteur qui peut-être qu'il y a une ambiguïté de traduction. Peut-être que le poneros, il faudrait le traduire par malheureux. Je pense que ça pourrait être explicite. Malheureux serviteur. Je dis cela parce qu'en fait, c'est quoi ? Peut-être une hypothèse. C'est quelqu'un qui est dans la peine et du coup qui cause de la peine à autrui. C'est qu'au fond, c'est quelqu'un qui n'a pas réglé son problème de dette personnelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé de la fois précédente et qui du coup, il le répercute sur la fois suivante. C'est-à-dire que l'éponge n'a pas été entièrement passée par rapport à la dette qu'il avait contractée vis-à-vis du maître. Pourquoi il est sans pitié ? C'est parce qu'en fait, certainement, il est malheureux de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont il ne s'est pas libéré. Non, mais il y a quelque chose dont il ne s'est pas libéré. Et manifestement, c'est là la fin du texte, il va rester coincé dans ce blocage-là, en fait. On pourrait certainement parler de la haine de soi, en fait. Je pense que ça pourrait être un thème qui est un thème explicatoire, qui explique bien, explicatif. Qui explique. Quand quelqu'un est offensé et qu'il reste sans pitié, finalement, c'est comme la victime qui devient bourreau, hein. C'est qu'il reste soumis au mal qu'il a subi, et au fond, il reste soumis à la logique de la vengeance, et au malheur de la vengeance. Et je pense que là, le maître qui vient ne vient pas pour l'accuser d'être un mauvais serviteur, mais il vient pour le reconnaître d'être un serviteur malheureux. Et que son malheur, il le reporte sur les autres. Il y a quelque chose qui rejaillit, en fait. Et la remise de dette, en fait, c'est remettre sur l'autre sa propre dette. Ouais.
Moi, je crois que c'est vraiment une image, cette parabole-là, de la condition humaine. On est tous dans les trois positions. On est, je ne dis pas simultanément, mais il nous arrive d'être dans les trois positions. D'être dans la position du roi qui nous avons la possibilité d'en être. D'être dans, on a tous une dette vis-à-vis de quelque chose, dans la situation de. Et puis on est aussi par moments dans la position de ce serviteur qui s'est fait remettre une grande somme et qui a. C'est plus fort que lui, la mesquinerie de ne pas pardonner ou d'aller embêter celui aussi.
Mais ouais, je pense qu'en fait, le problème de ce serviteur, c'est qu'il est resté dans sa logique du verset 26, du apodidomi. En fait, il est resté dans sa logique de la réparation. Là où le roi, le maître, l'a pardonné, lui a juste compris qu'il y avait une réparation, une remise de dette, sans prendre conscience qu'il y avait bien plus que cela. C'est-à-dire que le pardon, c'est justement l'au-delà de la logique d'équivalence. Pourquoi ? C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que ce serviteur agit ainsi ? En fait, il y a un côté, et je vous disais, il y a une part de mystère. Il y a un côté inexplicable. Le mal, la tentation, c'est d'expliquer le mal. Et quand on commence à l'expliquer, du coup, on commence à le justifier. Et quand on le justifie, alors ça veut dire qu'il a sa raison d'être et sa place. C'est normal qu'il y ait une part d'inconnu, une part d'incompréhensible. Et au fond, le pardon, c'est la manière de gérer cet incompréhensible-là. Mais y compris l'incompréhensible du point de vue de celui qui a commis la faute. Pas croire que quand on fait le mal, on est pleinement conscient de ce qu'on a fait. Et on comprend pourquoi on a fait ça. Et il y a des choses, c'est-à-dire ça nous dépasse largement le mal que l'on fait. Quand quelqu'un grille un feu rouge et provoque un accident mortel, bien sûr qu'il n'avait pas conscience qu'il allait provoquer un accident mortel, c'est qu'on est toujours quand même limité dans notre capacité à envisager la suite. Bon, je prends un exemple peut-être un peu particulier, mais quand on attend le repentir de l'offenseur, eh bien on vit dans l'illusion, c'est l'illusion que le mal est réductible à la réparation. Et qu'au fond, il suffirait qu'on ait réparé le mal que l'on a commis pour avoir tout réparé finalement. C'est qu'en fait, il y a des blessures qui sont des blessures collatérales. Le pardon, il est là pour gérer ces blessures collatérales. C'est-à-dire qu'il y a toujours du mal en excès. Il y a des blessures qu'on ne voit pas. Et ces blessures-là, la réparation et la justice ne peuvent rien faire pour. Face à l'excès du mal, il n'y a qu'une chose qui fonctionne, c'est le pardon en excès, le pardon excessif. C'est ce pardon irrationnel, déraisonnable. Je reviens sur ce que vous avez dit au sujet de la colère. Je pense que la colère fait partie du processus de pardon et que c'est même quelque chose d'extrêmement nécessaire. On pourrait le dire avec un terme peut-être plus sympathique, la révolte. La révolte, c'est justement assumer notre sentiment d'impuissance. Au fond, la colère et la révolte, c'est parce que justement, il y a quelque chose qu'on ne peut pas. On se sent incapable dans un domaine. Eh bien, c'est utile parce que c'est ce qui permet de mettre fin au ressentiment, en fait. Le sentiment par lequel nous agissons ou que nous réagissons, au fond, le ressentiment, c'est ce qui permet de renvoyer le mal à son auteur. Bon, d'accord. Ça permet de dire le mal subi, de le remettre à son auteur. La révolte, c'est ce qui permet de commencer à arracher le mal que l'on a subi. Ici ou là, dans l'Évangile selon Matthieu, il y a cette conseil bizarre, si ton œil te fait chuter, si ta main te fait chuter, arrache loin. Voilà. C'est cette idée-là, c'est d'arracher ce qui nous fait souffrir, c'est d'arracher ce qui est la cause de notre tourment. C'est métaphorique, il ne s'agit pas de s'énoculer, etc. Mais si le ressentiment ne débouche sur rien, si ce n'est de ruminer, eh bien, effectivement, il faut essayer de l'extirper. Voilà. Sinon, il s'auto-alimente et ça devient ce fameux feu éternel, cette géhenne dont on parle souvent dans les évangiles, cette torture. C'est ce qui se passe avec cette personne qui planque son talent dans la terre. Il est envoyé à la géhenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est replié sur soi. Il s'est refermé sur la peur qu'il a de son maître. Là où les autres se sont ouverts et ont fait du commerce, c'est-à-dire qu'on sont rentrés en relation. La nécessité de laisser aller le mal, elle est là, en fait. C'est que sinon, le mal, il est comme pour Tain, il est tapis à notre porte, et en fait, il nous fout en l'air, quoi.
Je peux dire quelque chose ?
Oui.
Je redis quelque chose. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui. Donc, il s'humilie.
Oui.
C'est un homme humilié. Il est dominé par le maître. Et tout d'un coup, il rencontre le compagnon qui, lui, il voit quelque chose. Et là, il le domine. Hein, là, il y a une revanche. Vous voyez ?
Oui, c'est ça, c'est la revanche, oui.
Voilà. Ah non, mais dans l'être humain, c'est quelque chose.
C'est parce que cette personne...
La personne qui est humiliée, qui se sent humiliée, tout d'un coup, elle va dominer. Et qui lui permet...
pour ça que je parlais de la haine de soi. Comment gère-t-on la haine de soi ?
Voilà.
Il y a ça, et puis, voilà, pour jouer avec les mots, c'est justement une personne qui a confondu l'humiliation et l'humilité, en fait. Voilà. On ne lui a pas demandé de s'aplatir à terre et d'être moins que soi.
Mais c'est gênant.
Non, mais bien sûr. Tout à fait. Oui, absolument.
Donc, en fait, après qu'on lui ait remis sa dette, il n'est pas à la joie d'avoir une dette remise, il est à l'humiliation de s'être mis à genoux.
Il est plus à se prosterner. Oui.
Ouais. Et alors, c'est la raison pour laquelle ce texte nous encourage à pardonner une fois qu'on a été pardonné. C'est justement pour se libérer de cela. Pourquoi il y a toutes ces formules qui semblent être un peu des équivalences, mais qui ne le sont pas, à vrai dire. Tu me pardonnes et je pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, etc. C'est que le pardon, en fait, c'est un don. C'est le don de la liberté, etc. Et anthropologiquement parlant, on sait que quand il y a un don, il faut qu'il y ait un contre-don. Sinon, il y a une nouvelle dette. C'est-à-dire que vous donnez un coup de main à quelqu'un, il est redevable. Même si c'était un cadeau, en fait, il est redevable. Et ça le met en situation d'humiliation, peut-être. Voilà. Et vous perdez des amis parce que vous leur rendez service. La solution, c'est que ces personnes-là se mettent à leur tour à rendre service. C'est-à-dire que des personnes pardonnées vont pouvoir assumer ce pardon en pardonnant à leur tour. C'est une forme de contre-don, mais qui est justement pas dans la logique de l'équivalence. C'est pas tu m'as fait ceci, je te rends cela. C'est je suis au bénéfice du pardon originel, je l'assume en étant finalement vecteur de ce pardon-là pour autrui. Et du coup, à travers l'offensé, c'est le pardon de Dieu lui-même qui agit. On est en quelque sorte. Perméable à ce pardon de Dieu. De même que quand on parle de l'agapé dans les écrits pauliniens ou chez Luc, l'agapé vient de Dieu, mais on peut en être le vecteur. À travers ce dont on est capable, l'éros, c'est ce qu'on avait vu avec la femme pécheresse qui va vers Jésus. Si Jésus repère que cette femme est pardonnée, c'est parce qu'à travers sa chorégraphie érotique, elle est témoin d'un amour divin dont elle se pressent au bénéfice, mais qu'elle ne véhicule qu'à travers ce qu'elle a à sa disposition. Et donc, ici, notre conscience reproche à ce serviteur qui avait été pardonné de ne pas pardonner, parce qu'on voit bien qu'il est finalement dans la situation du tyran, qu'il s'est transformé en bourreau. Et ça nous est insupportable. C'est-à-dire qu'il exerce un zèle dans l'application de la loi. Et bizarrement ou étrangement, ou en tous les cas, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, en régime chrétien, le zèle pour la loi c'est un peu contradictoire avec la foi. La foi, c'est une réinterprétation de la loi, mais pas l'observation de la lettre de la loi. Et l'esprit de la loi nous conduit à faire mieux que ce que la loi propose. Le pardon, une hygiène au quotidien pour que nous restions un peu humains, en fait. Sinon, on prend les habits du barbare, comme le fait ce serviteur impitoyable qui ne pardonne pas. Voyez à quel point pardonner est d'abord utile pour celui qui pardonne. Non, pas pessimiste. Ouais, je dis... Mais c'est parce que c'est une façon... C'était pour reprendre ce que disait François. Les hommes peuvent-ils pardonner? Non seulement ils peuvent, mais il n'y a que pour pardonner, factuellement. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre le pardon de Dieu et le pardon des hommes. Une façon de dire que Dieu est interdépendant de nous. Et pour finir avec Wilfred Monod, enfin, c'est pas une citation de lui, mais finalement, c'est peut-être ce qu'il aurait pu dire. Dans cette situation, voilà, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. En fait, c'est ainsi que mon Père Céleste fera, c'est le verbe poyein. Eh bien, Dieu, on pourrait dire, Dieu fera exactement ce que vous ferez de lui. Qu'as-tu fait du pardon de Dieu ?
Non, mais Dieu est au-dessus de ça, moi je ne suis pas d'accord.
Tout de même. Vous avez l'air bien au courant. Vous avez l'air bien au courant.
Non, je pense quand même que Dieu, qui est la suprême conscience, la bonté même, il ne peut pas agir comme ça.
Agir comment ?
Nous, on est des êtres humains.
Agir comment ?
Eh bien, comme on est des êtres humains très faibles.
Il ne peut pas agir comment ?
Agir mieux que nous, c'est tout. Mieux que l'être humain.
Mais qui vous dit qu'il n'agit pas mieux que nous ?
J'espère, hein.
Qui vous dit qu'il n'agit pas, qui vous dit qu'il n'agit pas comme le roi? Pourquoi est-ce que vous corrélez immédiatement cette phrase à celle qui précède, au deuxième scénario et pas au premier?
Parce que j'aime pas beaucoup la feuille que mon père ne vous pardonnera pas. Enfin, bon,
c'est pour ça que j'évoquais la figure tutélaire de Wilfred Monod. C'est que Wilfred Monod, comme je disais en début de séance, finalement, croit comprendre que Dieu est celui qui nous propose une vie à la hauteur de son espérance, mais qui ne peut pas faire contre nous. C'est-à-dire que son projet peut être contrarié. Et Golgotha, d'ailleurs il prend l'exemple de la croix, c'est l'exemple même d'un Dieu contrarié aussi. Vous avez une question ? Oui.
Et peut-être l'idée que vous disiez de, enfin, du serviteur qui reste dans la transaction, c'est peut-être parce qu'il se jette à terre, et donc peut-être que dans son esprit, il n'est pas conscient qu'il a bénéficié d'une grâce.
Exactement.
C'est parce que j'ai supplié.
Exactement. Et qu'il a réussi. Vous avez tout à fait raison.
C'est ça. C'est pas un peu la position du chrétien qui se dit, je suis chrétien, enfin Dieu même, parce que je fais plein de choses à l'église.
Mais bien sûr, c'est un risque, c'est une tentation, et c'est pour cela que François a raison de faire intervenir la question de la grâce. C'est que le chrétien est celui qui, en principe, devrait découvrir qu'il est pardonné par grâce seule et pas par ce qu'il a fait pour obtenir la bienveillance de Dieu. C'est ça. Ici, simplement, comment dire, le roi qui gracie le serviteur ne le fait pas parce que l'autre aurait accompli les bons rituels, mais bien parce qu'il est saisi aux entrailles, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est hors de l'institution qui l'a touché, en fait.
Donc, finalement, Dieu nous appelle non pas à regarder que cette personne doit s'ennuyer, mais de se dire, Dieu a été saisi aux entrailles pour moi, donc moi aussi je dois être saisi aux entrailles pour cette personne.
Alors là, ça serait une obligation religieuse ou une obligation morale. Moi, je le verrais plutôt sous l'angle de l'action de grâce. Vous voyez, plutôt sous l'angle... Parce que là, ce n'est pas tout à fait gratuit, finalement.
Non,
C'est-à-dire que si je veux être en règle par rapport à Dieu, il faut que je fasse comme il a fait. Je vous taquine, je sais, mais je suis là pour.
Non, c'est pas grave, c'est, ça me pousse à mieux m'exprimer. C'est que, enfin, il y a un chant qui. Je ne vais pas chanter le chant de ma vie. En gros, le chant dit que on m'a donné gratuitement, je dois donner gratuitement aussi. Que finalement, parce qu'à un moment donné, vous avez parlé aussi de cette notion d'être libéré de chaînes.
Oui.
Et en fait, on est libre parce qu'on vit dans Dieu. Finalement, que cette personne ait fait quelque chose, ce n'est pas si grave parce que je suis aimée de Dieu. Donc, peu importe, finalement.
Oui, mais vous voyez, c'est assez proche de. Oui, enfin, je veux dire, ce que vous dites est tout à fait juste par rapport au texte, effectivement. C'est l'idée aussi que c'est dans l'agir, dans la pratique, que l'on découvre toute la potentialité de la parole et de la foi, en quelque sorte. C'est pour ça que Jacques développe une sorte de théologie des œuvres. C'est une façon de dire que. La foi éprouve Dieu à travers l'action que l'on fait pour autrui. C'est-à-dire qu'on bénéficie bien du pardon en pardonnant à notre tour. Voilà, le bénéfice du pardon dont je parlais tout à l'heure, il est là. On bénéficie du pardon, finalement, quand on pardonne à notre tour. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, le projecteur est mis sur celui qui pardonne. Ça vous va comme ça ? Bien.